Well, it is music and dancing that makes me at peace with the world.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur d'histoire à l'Université Paris 2, Panthéon, Assas. Vous avez été producteur en 2012 d'une grande traversée sur France Culture consacrée à Nelson Mandela qu'on vient d'entendre. On va continuer à parler avec vous de Johnny Clegg dont il était question dans ce journal de la culture et du rôle majeur qu'il a eu dans les années 80 et depuis en Afrique du Sud. Parce que même s'il disait de son combat qu'il était culturel plus que politique, il a incontestablement contribué à la chute de l'apartheid avec ses chansons, Fabrice Dalméda.
Oui, il faut préciser que ce qu'on entendait là, c'est Nelson Mandela.
En 99.
Qui le surprend pendant une tournée. Il est en Allemagne. Mmh. Il sait pas que Mandela est là. Et en fait, il est en train de faire son spectacle. Et tout d'un coup, par surprise, par derrière, Mandela arrive. Le public, évidemment, est aux anges. Lui, ce sera peut-être le moment le plus émouvant de sa vie. En tout cas, c'est comme ça qu'il le décrira à quelques journalistes par la suite. Et donc, il dit cette phrase. Mandela, hein, que comme quoi la musique et la danse sont quelque chose pour lui d'absolument essentiel. Et de fait, vous l'avez dit, si Johnny Clegg nous a marqué, j'allais dire presque générationnellement, il y a eu une génération de Johnny Clegg dans
c'est
les années 80.
Extrêmement fort. Hein.
Extrêmement fort, parce que tout d'un coup, on était à un moment un peu particulier. Il faut rappeler ce contexte. L'apartheid était là, il était puissant,
installé.
Il était fort. Les gouvernements occidentaux, comme celui de Margaret Thatcher, refusaient de le sanctionner. Les États-Unis de Reagan soutenaient cet allié contre le communisme qu'on n'avait pas encore vaincu à l'époque. Et donc, dans ce contexte-là, l'apartheid, il est bien installé.
Et Mandela était au fond de sa cellule.
Mandela, au fond de sa cellule, à Robben Island, au pénitencier. D'ailleurs, Clegg fait le grand tube quelques années plus tard. On va y revenir. En 1987, à Sibonanga, dont vous avez passé un extrait.
Regardez de l'autre côté de la baie.
Qui dit, nous ne l'avons pas vu.
Ouais.
On ne le voit pas. On ne peut pas le voir.
Ouais.
Et c'était le plus vieux prisonnier politique du monde. Et Clegg, il a ce courage de faire ses chansons qui vont être censurées, il faut bien le dire, en Afrique du Sud, de prendre des risques, en quelque sorte, physiques, pour défendre une cause qu'il a embrassée tout jeune en réalité.
Et qui paraissait perdue d'avance. C'est ça qui est extraordinaire avec cet engagement de Johnny Clegg, mais d'autres. Hein. On peut parler de Peter Gabriel, on peut parler d'autres artistes, Sixto Rodriguez aussi, Sugarman,
les autres que vous avez cités sont anglais. Lui,
il était sur place.
Il vient d'une famille anglaise, il naît dans le Lancashire, mais d'une mère qui est rhodésienne, c'est-à-dire futur Zimbabwe, et d'un père journaliste sud-africain, Dan Pinard. Et il va, à 7 ans, il se retrouve projeté à Johannesburg avec cette mère qui est chanteuse de cabaret. Et lui, il va découvrir ce monde zoulou. Et ce monde zoulou, dans les années 80 aussi, là, c'est encore un peu particulier. Parce qu'en fait, Mandela, c'est un Xhosa, c'est une autre ethnie. Il est en tôle. Mais les zoulous ont une espèce de ligne de crête fragile où ils ont le droit de s'exprimer dans ce régime d'apartheid tout en étant obligés de reconnaître la différence raciale. Et donc, ce que réussit à faire Clegg, qui fait, c'est assez drôle d'ailleurs pour d'en parler à France Culture, parce que c'est le chanteur, mais il est formé comme anthropologue. Mmh. Il est formé dans plusieurs universités. Il va arrêter sa carrière en 84 parce qu'il a déjà un succès énorme avec un premier groupe.
La première fois que j'ai entendu de la musique zoulou dans la rue, ça a été une révélation. Une ouverture. Une fenêtre sur un autre monde dont j'ignorais l'existence. C'est grâce à cette musique que ma vie a commencé à changer. Il y avait une cour au milieu des bâtiments avec un endroit où ils pouvaient pratiquer leur danse traditionnelle. Et là, j'ai vu quelque chose qui était si puissant. Ils ont formé deux ou trois lignes et pendant qu'ils fredonnaient, ils dansaient. J'ai regardé ça. J'étais fasciné, captivé. Et soudain, Johannesburg, la ville, les voitures, les vélos, les radios, tout a cessé d'exister. Tout ce qui comptait, c'était ces hommes.
Belle illustration de ce que vous disiez, hein, Fabrice Dalméda, dans cet extrait du documentaire Johnny Clegg, le Zoulou blanc d'Amin Mestari, diffusé sur Arte en juin dernier.
Oui, parce que, en fait, en 81, il fait un premier album dans lequel il va illustrer les deux grandes danses des Zoulous, la danse de combat, la danse des combattants qui célèbre la victoire de 1879 contre les Britanniques.
On frappe le sol du pied.
Voilà, et on brandit les lances. Et puis la deuxième danse, c'est celle des travailleurs des mines, c'est celle qu'il évoque là. Et donc il va aussi l'illustrer avec African Sky Blue dans le même album en 1981.
Johnny Clegg a été là aussi après la chute de l'apartheid, ça c'est aussi important. Oui, il a aussi œuvré, en tout cas essayé d'œuvrer aux tentatives de réconciliation en Afrique du Sud.
Oui, il a continué à œuvrer, mais en étant quand même pour ce gouvernement multiracial, si bien qu'en 2012, il a obtenu la plus grande distinction, la plus haute décoration sud-africaine, et que le gouvernement, là, au lendemain de sa mort, lui rend hommage. Et c'est vrai que c'est pas de la nostalgie d'une certaine manière, mais c'est une époque historique glorieuse.
Merci Fabrice Delmeda. Scatterlings of Africa, Johnny Clegg, mort hier à 66 ans d'un cancer. Merci encore Fabrice Delmeda d'être Merci. Venu ce matin évoquer cette figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Vous êtes, je le signale, l'auteur d'un Que sais-je sur Mandela, paru l'an dernier aux presses universitaires de France. 8h43 sur France Culture, comment réussir sa vie à coup sûr? Et surtout, du premier coup, ce qui, tout bien réfléchi, a son importance. Ils sont nombreux à nous promettre la recette du bonheur, gourou du développement personnel, coach de vie, auteur d'ouvrages pullulants, promettant de trouver un sens à sa vie. Et alors, Yves Cusset, vous aussi, vous vous y collez. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, comédien, homme de théâtre. Votre livre, Réussir sa vie du premier coup, publié chez Flammarion, est finalement un authentique livre de développement personnel. Il en a en tout cas la forme. Mais peut-être certains des lecteurs de ce livre sont des gens qui se seront laissés prendre.
C'est probable, je l'ai vu figurer dans certains rayons développement personnel.
Donc les libraires,
De libraires qui n'avaient pas pris peut-être le temps de le consulter suffisamment au préalable. Voilà.
Parce qu'on peut expliquer très vite à nos auditeurs que ce livre « Réussir sa vie du premier coup » publié chez Flammarion est une parodie de tous ces livres, je disais, qui pullulent sur le développement personnel. Vous avez voulu, vous, Yves Cusset, philosophe, dire « ça suffit, prenons un peu le temps de réfléchir à ce qu'est le bonheur, à ce que sont ces notions-là ».
Je ne pratiquerai pas la censure, mais... La défiance humoristique, c'est l'un des usages de la parodie, c'est de se dire attention, il y a des choses qu'on prend très très au sérieux dans la société, ça fait du bien de les regarder avec un tout petit peu plus de distance, ce qu'on appelle le deuxième degré, parce qu'on est très vite pris dans une ambiance, je dirais que c'est pas tellement des ouvrages dont je m'amuse eux-mêmes, de leur contenu, c'est pas non plus une critique interne des ouvrages de développement personnel, c'est... La parodie d'une ambiance, presque d'une ambiance langagière, je dirais, d'usage langagier, d'une manière de parler, qui va bien au-delà des coachs. Hein. Parfois, c'est entre nous, c'est l'usage quotidien de la psychologie, de la psychologie positive, qui a son succès dans les magazines aussi. Et ça commence à imprégner la langue, quoi, en général. Et donc, c'est cette langue-là que j'ai voulu parodier.
On va écouter justement un exemple.
Votre avenir... Il n'est pas dans votre zone de confort, il est au-delà de votre zone de confort. Il est derrière ces frontières-là. Si vous restez que dans votre bulle, bon, vous allez vivre peinard et puis il va pas se passer grand-chose.
Mais pour arriver à en sortir, il faut avoir un but, un objectif qui est grand.
Ça, il est clair que avoir des objectifs, c'est le maître mot, je dirais, du développement personnel, sans mettre de consonance mystique sur le terme. C'est se développer soi-même, que ce soit financièrement, psychologiquement. Il faut se développer, il faut apprendre et avancer. Si tu n'avances pas, tu recules, de manière générale.
Voilà les clés d'Olivier Seban, expert immobilier, pour réussir sa vie et obtenir ce que vous voulez. C'est une vidéo promotionnelle datée de janvier 2013. Ça illustre bien ce que vous venez de nous dire, Yves Cusset.
Oui, moi je serais plus pour il faut avancer pour mieux faire marche arrière, mais bon, pourquoi pas, hein, je suis aussi ce qu'il propose. Enfin, c'est ce qui est extraordinaire, on le voit tout de suite, c'est que c'est le potentiel comique, il existe par lui-même. Moi je trouve ça dommage qu'on s'en saisisse pas plus. Il suffit d'écouter ces gens-là. Parfois, moi j'ai fait beaucoup, évidemment, j'ai été voir des vidéos sur Internet, ce type de conseils de coach, etc. Ça a été de bons moments que j'ai passé, parce que c'est très drôle, il y a un gros potentiel comique et que j'ai cherché à exploiter, quoi. Le matériel matériau m'était donné, donc je les remercie vivement.
C'est parfait pour un philosophe, hein, tout ça, hein, tous ces livres sur l'accomplissement et l'épanouissement, tout ce discours aussi sur le sens de la vie, sur le droit au bonheur. Vous devez chercher le bonheur. Quel concept ça chatouille chez vous ?
Quel concept chatouille ?
Philosophique, sans chatouiller quand vous entendez...
Effectivement, il y a une question de philosophique dont le développement personnel se saisit et qui est à peu près aussi vieille que la philosophie. C'est celle de la question de la vie heureuse, du bien vivre, du bonheur.
La différence entre vivre et exister.
Voilà. Alors là, je me suis saisi aussi de la différence entre vivre et exister que j'illustre à travers la différence entre l'homme et la moule. Alors avec l'affaire François de Rugy, ça, c'est intéressant. Ça pourrait être la différence entre l'homme et le homard aussi, ouais. dont Jean-Yann parlait avec une grande qualité, je sais pas si vous le voyez.
Sortir de soi, c'est ça, pour être heureux?
Oui, alors pour être heureux, je ne sais pas...
Pour vivre, pardon.
Pour exister, c'est existere, disait Heidegger, c'est être hors de soi. Voilà. Et vivre, c'est faire quelque chose du fait qu'on est hors de soi. Alors, vous voyez, avec ça, on va aller loin. Mais voilà, on est jeté là sans raison et il faut en faire quelque chose. Le développement personnel se saisit de cela. Il nous donne l'injonction de vivre. Il faut vivre, mon gars. Et du fait que t'es jeté là sans raison, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir que tu sois un tout petit peu plus qu'un crustacé ou qu'une moule.
Ce qui est parfois difficile. Vous datez de quand cette montée en puissance, notamment dans les rayons des librairies, du développement personnel, une vingtaine d'années
En France, c'est un peu plus ancien que ça. Même il y a eu d'abord plein d'ouvrages de psychologie positive qui n'étaient pas ciblés. Les rayons développement personnel, ce serait intéressant d'en faire la jeunesse, de voir quand est-ce qu'ils apparaissent exactement. Ça doit avoir une vingtaine d'années. Aux États-Unis, c'est plus ancien que ça. Aux États-Unis, et c'est même plus important, il y a de grands ouvrages de pratiques de vie dans toutes les dimensions. Ça occupe une place très importante. En France, c'est un peu un héritage, c'est importé des États-Unis avec la tentative de lui donner un peu plus de légitimité philosophique. On voit bien les auteurs qui ont du succès aujourd'hui. Il faut donner à tout cela une légitimité philosophique d'un côté, scientifique de l'autre. Voilà.
Sous un joli portrait de Donald Trump, effectivement dans votre livre Yves Cusset, cette légende, Donald Trump, modèle d'accomplissement solitaire et le premier président de race bovine de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. On peut citer aussi Bernard Tapie, tiens, dans le mode winner.
Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui.
Alors ça, c'est pas une parodie, c'est une vraie chanson. Oui. Le vrai Bernard Tapie, oui. Il y a quelques années.
Qui correspond vraiment à la décennie des années 80.
C'est 86.
Alors c'est extraordinaire, là, ça apparaît, cet objectif explicite de réussir sa vie, évidemment selon le modèle entrepreneurial.
Voilà.
Et on le prend vraiment au premier degré. Je dirais, aujourd'hui, même le développement personnel n'oserait pas aller si loin. Enfin, écrire une chanson de ce type-là avec l'aide de Didier Barbelivien, il faut quand même lui rendre hommage, qui écrit ça pour Bernard Tapie, qui chante... réussir sa vie. Il faut voir la vidéo. Je recommande aux auditeurs d'aller regarder la vidéo de Réussir sa vie de Bernard Tapie et Didier Barbelivien, parce que c'est quelque chose. Et là, on voit combien les années 80 sont à la fois loin et combien elles étaient aussi drôles.
Le développement personnel, le fait d'aller chercher comme ça du bonheur qui se vend finalement, c'est ça, hein, ce que vous dites, c'est que le bonheur, c'est pas comme quelque chose à 10 euros, ça tient pas dans la main, à la différence de votre livre par exemple, ou à la différence des livres de développement personnel. Quand on cherche un coach, on cherche quelqu'un qui va pouvoir décider à notre place, qui va pouvoir nous dire le bonheur, c'est ça. On comprend mieux effectivement la démarche dans l'entreprise, et là on va passer sur un volet un peu plus politique de la discussion, Yves Cusset. Dans l'entreprise, quand on veut activer cette mécanique-là, on fait appel à des chief happiness officers, par exemple, en ce moment.
Oui, et pour moi, c'est la violence symbolique latente du développement personnel, qui consiste à dire, nous allons t'aider à être plus heureux pour que tu sois, et c'est presque dit explicitement, pour que tu sois plus efficace, plus productif. Autrement dit, c'est un outil de réconciliation avec le monde tel qu'il est, avec sa violence, avec la violence du monde libéral et de l'organisation de l'entreprise. Et donc, il y a un jeu stratégique, hein, qui consiste à laisser croire que l'entreprise serait, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, l'espace du bonheur et de l'épanouissement. Donc, on, à travers ces coachs, effectivement, on cherche à organiser l'entreprise autour de la possibilité de l'épanouissement personnel. Mais encore une fois, il y a une absence de vergogne. C'est-à-dire, il n'y a plus de honte. On ose dire que le bonheur, c'est, ça a une utilité. Le bonheur, ça rend plus productif. Mm-hmm. Ça, il n'y a absolument pas de vergogne à ce niveau-là. Hein? Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde l'accepte. C'est l'un des paradoxes. C'est-à-dire que, on pourrait croire que le bonheur, c'est une fin en soi. L'un des grands paradoxes du développement personnel dans son usage entrepreneurial, mais je crois que son usage est fondamentalement entrepreneurial, c'est de dire que le bonheur n'est pas une fin en soi. Donc c'est presque un paradoxe. Au fond, si le bonheur n'est pas une fin en soi, peut-être qu'il n'est plus bonheur.
Il y a aussi une application plus politique. Vous parlez d'un problème de la psychologisation du politique, parce que cette façon de faire du positive thinking, d'ailleurs je crois que Jean-Pierre Raffarin était un des grands adeptes de la formule, c'est aussi quelque chose qui pose problème.
La psychologie positive, la pensée positive, c'est un principe, je dirais, d'autosuggestion, d'auto-hypnotisme. C'est aussi ancien qu'Émile Coué, hein, et ça consiste à s'aveugler volontairement face au réel. Donc, comme disait Lacan, le réel, c'est quand ça cogne. Donc, si on fait trop de pensées positives, ça risque à un moment de cogner d'autant plus fort. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, la pensée positive repose sur un principe. Plus je positive, moins je pense. Il serait bon, pour moi, de retrouver quelque chose comme une pensée joyeuse face à ça, pas une pensée coupable. Je défends pas ça non plus. Moi, je défends, à travers la parodie, la possibilité de la pensée joyeuse.
Mmh. C'est la place d'un intellectuel, cette place-là que vous prenez ?
Je ne crois pas. Je pense que l'intellectuel va écrire une critique interne du développement personnel. Moi, je veux retrouver le pouvoir, évidemment, de l'humour, le pouvoir libérateur du rire, qui évidemment fait penser, secoue la pensée, comme disait Deleuze. Ça, voilà, le rire, ça fait mal à la pensée. Il disait pas le rire, il disait l'humour. L'humour fait mal à la pensée. Donc, je veux utiliser ce pouvoir déstabilisateur de l'humour, mais surtout me réconcilier avec un pan de la littérature qui est un peu délaissé en France, je trouve, qui est tout simplement la littérature parodique et humoristique, qui, à mon avis, n'est pas l'apanage de l'intellectuel. C'est une certaine manière d'écrire, c'est plus ethnographique, je dirais. C'est se plonger dans une langue qui n'est pas la nôtre, la déformer quelque peu, la tirer pour en faire apparaître les ressorts par le biais de la drôlerie et de l'humour. Voilà, c'est plus cet aspect-là qui m'intéresse. Je ne me mettrai pas dans la posture de l'intellectuel qui dénonce, même si je crois que tout lecteur verra bien qu'il y a là-dedans
une certaine forme de dénonciation. Oui. Rire, ça nous détend aussi, hein. Parodier, ça nous détend, dites-vous, et ça nous sépare peut-être des winners. Les winners ne se marrent pas, eux.
Oui, je crois. Enfin, je définis ainsi l'humour parce que tout type de rire n'est pas forcément de ce type-là. Mais dans un autre ouvrage qui est consacré au rire, je définis l'humour comme la bonne humeur pour mourir, c'est-à-dire l'humeur du loser, du sans ambition, de celui qui n'est sûr que d'une chose, comme je dis dans le livre, qu'il ratera complètement sa sortie, mais que ça n'a décidément aucune importance.
Merci Yves Cusset. Votre livre, véritable anti-recette du bonheur facile, est publié chez Flammarion. Comment réussir sa vie du premier coup? J'ajoute que trois de vos pièces sont jouées en ce moment à Avignon. La philosophie enseignée à Machouette jusqu'au 27 juillet à l'espace Alia, où se donne aussi le petit manuel d'engagement politique à l'usage des mammifères doués de raison et autres hominidés un peu moins doués jusqu'au 28 juillet. Et puis le tout petit prince minuscule à partir du 17 juillet à l'atelier 44.